BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Vos 3 heures d'investissement non-stop, on vous accompagne jusqu'à 18h tout à l'heure. C'est une nouvelle heure, la troisième aujourd'hui de BFM Bourse qui s'enclenche. On est à vos côtés. Étienne Brack sur tous les ballons depuis la Tour Euronext. Il nous accompagne depuis la salle de contrôle du CAC 40. Rebonsoir Étienne. On se parlait tout à l'heure, le CAC 40 était dans le vert.
Bonsoir.
Porté entre autres par Nvidia, bah depuis l'ambiance a changé.
Oui, très clairement, et il ne faut pas exclure une séance de baisse aujourd'hui. Ça serait la troisième si ça venait à se concrétiser dans une demi-heure, puisque à l'instant, le CAC 40 est à l'équilibre sur les plus bas niveaux de la séance à 8090 points, alors que le Dow Jones de son côté perd 0,7%, que le S&P 500 est stable également, avec, on l'a vu en début d'après-midi, des données qui montrent que le secteur des services et le secteur manufacturier aux États-Unis sont bien plus robustes qu'attendus, au-delà des 54 points pour ces deux PMI, alors que le consensus s'attendait à 51 points. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la Fed, d'autant plus qu'on l'a vu hier dans les minutes, eh bien vous avez certains membres qui n'excluent pas des hausses de taux. Suite à cela, vous avez un 10 ans américain qui est sur des plus hauts de 3 semaines à 4,5%, le 2 ans à 4,95%. Seul le Nasdaq s'en sort aujourd'hui avec une hausse de 0,5%, grâce bien sûr à Nvidia qui gagne 150 milliards de capitalisation en l'espace d'une séance. C'est simple, c'est l'équivalent de la capitalisation boursière de Total Energy.
Ouh, impressionnant Nvidia, effectivement. Alors on va y revenir tout au long de l'après-midi sur cette publication, les perspectives, les prévisions, assez incroyables, effectivement. Puis quelles alternatives à Nvidia. On parlera aussi d'Elon Musk. Enfin, c'est pas qu'on parlera de lui, c'est que c'est lui qui va parler dans BFM Bourse en direct. Elon Musk à suivre tout à l'heure à partir de 17h35. Elon Musk, en effet, participe à Vivatech, dont nous sommes partenaires BFM Business. Alors on a choisi de vous en faire vous aussi profiter. Et donc à suivre en direct tout à l'heure l'intervention très très attendue en direct, hein, vraiment tout à l'heure, dans une demi-heure, d'Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de X, le patron de Starlink, le patron de Neuralink, sa vision de la tech, sa vision de l'IA, sa vision de l'avenir. Vous ne pourrez pas avoir de vision plus actualisée de celle d'Elon Musk qu'aujourd'hui dans BFM Bourse. Donc rendez-vous pour l'intervention en direct d'Elon Musk. Alors à la radio, à la télé et aussi sur nos réseaux sociaux et notre site BFM Business. Vous pourrez d'ailleurs y suivre en intégralité l'intervention d'Elon Musk. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on parlera également du comeback de la zone euro. Des indicateurs un peu plus encourageants aujourd'hui. Les indices PMI sont à un plus haut d'un an en Europe, ça fait du bien. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Tout à l'heure, d'ailleurs, on évoquait le potentiel technique des marchés avec Alexandre Tixier pour notre portefeuille trading. Ce portefeuille trading BFM Bourse qu'on vous propose régulièrement. Il nous disait quels sont les prochains seuils techniques à la hausse, les valeurs aussi qui offrent du potentiel et les valeurs sur lesquelles il envoie des alertes aux abonnés du portefeuille BFM Bourse. Vous pouvez retrouver le replay de son intervention sur notre application BFM Business et puis vous abonner aussi en flashant, scannant le QR code qui tout au long de l'après-midi apparaît sur vos écrans. Ce portefeuille trading BFM Bourse. Alors, il y a l'analyse technique, bien sûr, avec ce portefeuille trading, et puis l'analyse, l'interprétation fondamentale du monde dans lequel on est tous en train d'avancer. Ils vont nous apporter leur éclairage, leur vision spécifique. Jean-Edouin Réa pour Quadrille Capital. Bonsoir Jean-Edouin.
Bonsoir Guillaume.
Je crois que je l'ai bien prononcé cette fois. Quadrille
Bravo.
Capital. Bertrand Puif aussi nous accompagne en fil rouge ce soir. Rebonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Vous étiez avec nous pour le bullshitomètre dans la précédente demi-heure. Vous êtes gérant action chez Fidélité International. Évidemment, on parlera d'NVIDIA dans un instant. Je vous demande juste 3 minutes de patience. Nvidia gagne 8% aujourd'hui, voilà, c'est dit. Mais je vous demande 3 minutes de patience pour connaître l'avis, l'analyse de nos experts et surtout les possibles alternatives à Nvidia dans les portefeuilles boursiers. On vous demandera, à l'un et à l'autre, de nous dire dans les yeux, en toute sincérité, si l'avenir de l'intelligence artificielle en bourse pour celui qui n'y est pas encore investi, c'est Nvidia ou s'il y a mieux à faire. Je vous poserai clairement la question et je vous demanderai aussi de regarder dans les yeux, les qualités et les défauts d'Nvidia. Challenge relevé, pas de souci.
Ok. Challenge relevé.
Allez. Rendez-vous dans 3 minutes. D'abord, quand même, la macroéconomie, Bertrand. Aujourd'hui, c'est pas Nvidia qui fait la tendance sur les indices, c'est la macroéconomie. C'est la revanche de la macroéconomie. On a des indicateurs américains, les PMI, qui sont à un plus haut de 2 ans. Malgré les efforts de la Fed, malgré les hausses de taux, les PMI américains reviennent sur des plus hauts d'avril 2022. C'est assez incroyable quand même.
Oui, et puis ça peut changer la donne, puisque le consensus avait commencé à anticiper, en tout cas les plus optimistes, une baisse de taux aux États-Unis à partir du mois de septembre, sur des indicateurs d'inflation qui étaient plutôt favorables il y a quelques semaines. Et donc là, pour le coup, effectivement, les PMI sont en train de relancer la spéculation sur le fait que cette probable baisse soit décalée à la fin de l'année, ou peut-être encore une fois l'année prochaine. Hein. Je veux dire, on voit même les statistiques en Europe, montrent que l'inflation, notamment au niveau salarial, est à assez persistante et largement au-dessus des attentes des banquiers centraux. Hein, qui, donc bon, voilà, on est dans un environnement où c'est vrai que cette inflation aujourd'hui focalise l'attention des investisseurs et que pour continuer à avoir le marché monter sur des anticipations de baisse de taux. On a besoin de ces anticipations de baisse de taux. On a besoin que l'inflation montre des signaux très encourageants. Ce qui est pas forcément le cas. Il y a des statistiques qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Donc c'est pas assez clair encore.
Le patron Goldman Sachs hier a expliqué qu'il ne croyait plus à des baisses de taux en 2024. Ça avait déjà douché le marché. Et aujourd'hui, une stat qui va dans son sens, les PMI qui réaccélèrent à un plus haut de 2 ans aux États-Unis, Jean-Edouin.
Oui, je suis d'accord. Bon, on est à cheval entre le Goldilocks, le scénario ni trop chaud ni trop froid, et beaucoup de signaux de ralentissement quand même dans l'économie réelle. Et puis des paradoxes un peu surprenants qui sont soulignés par des économistes comme quoi, par exemple, la hausse des taux crée aussi sa propre inflation. Elle crée énormément de revenus sur les marges d'intérêt. Elle crée aussi un déplacement des logements de la propriété vers la location. Et en fait, les loyers sont une des plus grosses parts de la hausse du CPI parce que les gens ne pouvant pas en fait s'acheter des maisons, ils se mettent à louer sur un stock qui est restreint. Donc il y a des paradoxes sur cette hausse de taux qui n'a pas forcément l'effet attendu. Et pendant ce temps-là, en fait, vous avez aussi un boom de CAPEX qui est stimulé par les gouvernements dépensent comme jamais, notamment aux États-Unis. Donc le Inflation Reduction Act, qui est en fait un énorme stimuli pour le rapatriement industriel, pour la souveraineté dans la clean tech, etc. Et puis le boom de l'IA qui, mine de rien, pour pas citer Nvidia, c'est l'exemple parfait, mais il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans cette industrie aussi.
Oui, et du coup, on a ce 10 ans américain qui monte aujourd'hui, après le PMI, donc sur un plus haut de 2 ans aux États-Unis, ça personne n'avait vu venir, malgré les efforts de la Fed. Et donc, le 10 ans américain remonte en ce moment à 4,5. Le marché anticipe désormais, un peu plus d'une. Une baisse de taux de la Fed, on était sur 2 baisses de taux encore avant-hier, là on est à un peu plus d'une. Donc on sent que le marché hésite encore énormément sur la stratégie à venir de la Réserve fédérale américaine. On a un Nasdaq qui gagnait tout à l'heure 1%, il a divisé par 2 ses gains. Mais il reste en hausse le Nasdaq, et il est sur un plus haut historique aujourd'hui malgré tout. Grâce, c'est le moment d'en parler, c'est parti, c'est notre défi ce soir, ne pas parler d'Nvidia, impossible. Donc grâce à Nvidia, Nvidia gagne en ce moment sur le marché américain 9%, Nvidia atomise les attentes. Oui. Incroyable. Chiffre d'affaires d'Nvidia, il a plus que triplé en un an. Les prévisions pour le deuxième trimestre largement supérieures aux attentes. Incroyable Nvidia qui aujourd'hui, en progressant de 9%, gagne autant que la capitalisation d'Intel. Comme ça, paf, sur une seule séance. Nvidia a une capitalisation égale à 17 fois celle de Goldman Sachs. Waouh ! Et il y avait des attentes très très fortes, du coup on se disait il va falloir qu'il délivre vraiment largement, mais encore plus que ce qu'on pourrait imaginer au-dessus des attentes pour continuer de progresser. Alléluia ! C'est fait. Et le titre gagne donc 10%. Et pourtant, ça n'a pas d'impact sur les grands indices mondiaux cette fois-ci, contrairement à il y a 3 mois. Comment faut-il l'interpréter, Jean-Edouin ?
Bon, alors déjà, il y a eu un trou d'air sur Nvidia au mois d'avril. Ça s'est dégonflé de 20%. Donc il y a eu une certaine respiration, et je pense que l'excès spéculatif qu'il y avait dans le titre jusqu'à la fin mars avait disparu. Ensuite, sur le plus court terme, il y avait un doute sur la possibilité qu'il y ait un trou d'air opérationnel dans l'activité entre Hopper et Blackwell. Donc Hopper, c'est le GPU d'aujourd'hui, et ils ont introduit donc en mars un nouveau GPU qui est extrêmement plus performant. Et l'idée, c'était qu'éventuellement les GAFA allaient peut-être attendre pendant 6 mois avant d'installer cette nouvelle puce. Et je dis en passant d'ailleurs que ce n'est pas une puce, c'est un système complet. On a bien plus qu'un GPU. On a un GPU, des CPU, on a une mémoire ultra rapide, on a des NVLink qui sont de la connectique ultra rapide. En fait, tout ça, c'est un serveur entier qui coûte $250,000. Donc, c'est assez compliqué de juste réduire Nvidia aux cartes graphiques qu'ils faisaient il y a 2 ans.
On est d'accord. Mais donc, Blackwell arrive, ce sera dans quelques mois, la commercialisation qui va démarrer.
Dit,
et ça va changer. La question qu'on peut se poser, c'est la publication est énorme, les prévisions pour la suite d'Nvidia sont explosives. Est-ce est-ce que Blackwell, donc ces futurs systèmes qu'NVIDIA va commencer à commercialiser à la fin de l'année, va lui permettre de maintenir la même avance sur ses concurrents, ou quand même, malgré tout, et malgré l'arrivée de cette plateforme Blackwell, NVIDIA va commencer à se faire rattraper, malgré Blackwell?
Moi, je ne pense pas qu'ils aient publié des résultats qui étaient incroyables par rapport aux attentes. Ils étaient en ligne avec les attentes de ce qu'on appelle le buy-side, des gérants. Le sell-side, les brokers étaient un peu en dessous. Et ils ont publié 2 milliards au-dessus. C'est le même excédent de publication que les deux trimestres précédents, mais sur une base plus grande. Non, en fait, le vrai truc qui plaît énormément aujourd'hui, c'est qu'en fait, Jensen Huang a dit, à 3 mois près, pour les opérateurs de data center, ça vaut la peine de se faire livrer tout de suite la technologie d'aujourd'hui. Ça vaut pas la peine d'attendre 6 mois, parce que vous allez vous faire rattraper éventuellement par la concurrence, et en tout cas, vous allez pas pouvoir développer vos LLM aussi vite.
Et il faut donc moins de trous à venir dans les commandes d'NVIDIA que ce que le marché escomptait jusqu'ici.
A priori, ce qu'on voit surtout se dessiner là, c'est un lissage dans le temps.
D'accord.
Bon, ça c'est vraiment le court terme. Mais le plus long terme, je pense qu'il y a, selon ces analystes, il y a à peu près 1000 milliards de bases installées de data centers. Et ce 1000 milliards va être 100% renouvelé autour d'un nouveau paradigme d'informatique. On passe du calcul par instruction au calcul par intuition, si je puis dire. Mais sans rentrer trop dans le détail, on redessine le data center. Et ce que fait NVIDIA ici, c'est de prélever, je pense, 20% de ce cycle de CAPEX. Et je pense qu'on...
D'investissement, voilà.
Oui, d'investissement, pardon. Et donc, nous, on a prévu à peu près 200 milliards de chiffre d'affaires pour NVIDIA. C'était prévu pour 2027. Ça a été rapporté à 2026. Et maintenant, on envisage 2025. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comprimé dans le temps. Je ne sais pas quel est le si on devait faire une DCF et une analyse un peu plus financière du modèle, où ça va se stabiliser. Mais la société prend le contrôle de l'écosystème. Et quand, par exemple, on a fait des comparaisons avec 2000, NVIDIA, c'est bien plus que juste Cisco ou juste Intel. Ah, c'est
alors là,
Cisco
vous provoquez Bertrand. Là. C'est avec Bertrand qui va
je
vous
répondre. Je sais, parce que je l'ai écouté dans la salle d'attente.
Il va vous répondre dans un instant. Pour lui, NVIDIA, c'est Cisco, pas pour vous.
Plus, c'est Cisco, plus Microsoft, plus Intel, plus Sun Microsystems, une société qui n'existe même plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent le GPU, le CPU, les cartes réseau et le système d'exploitation. C'est-à-dire que le Windows de l'IA, c'est eux qui l'ont développé, ça s'appelle CUDA, et vous avez plus de 400 bibliothèques de code qui ne sont pas remplaçables. Ce que fait AMD, par exemple, sa puce qui a été lancée en décembre et qui, dès mars, était déjà obsolète, ce sont des puces qui sont compatibles avec les bibliothèques CUDA. Donc elles sont moins rapides, à défaut de réécrire le code, en fait, dès que NVIDIA a sorti sa nouvelle puce. Donc ils sont un peu coincés dans un phénomène de rattrapage.
D'accord.
Après, j'entends bien que...
Non mais je vois, Bertrand n'est pas du tout convaincu par vos arguments, on va le faire réagir quand même dans un instant.
Et alors le dernier point juste quand même pour souligner, c'est qu'il y a un an, NVIDIA avait 100% de ses clients, c'était, pour simplifier, les GAFA, okay, les hyperscalers, les méga data centers. Microsoft, Google, Amazon, etc. Aujourd'hui, ce n'était plus que 40. Les autres, c'était des entreprises et des fonds souverains, des projets souverains d'IA. On en parle de plus en plus. On va atteindre les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les fonds souverains d'IA. Il y en a en France, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a dans beaucoup de pays. Ça fait partie aussi de l'enjeu. Et comme vous vous souvenez, je pense que l'IA, c'est en fait une matière première.
Les usines, c'est une commodity pour vous. C'est une commodity.
Voilà, les usines à matière première que développe NVIDIA avec Dell, avec ServiceNow, avec tous ses partenaires, ils vendent de l'IA en commo, en matière première, et ce n'est que le coût marginal de l'électricité qui va déterminer son prix.
Je vois Bertrand réagir. Il a l'air d'avoir de la peine pour vous, Bertrand, en vous écoutant, pas du tout convaincu par vos arguments. Bertrand, NVIDIA, c'est l'avenir de l'IA, et l'IA, c'est notre avenir à tous. Donc NVIDIA est notre avenir à tous. Est-ce que vous achetez ce... je résume, je schématise un peu, genre, en fait. Est-ce que vous achetez ce discours?
La World Company, le monopole mondial, c'est là où j'ai en fait un problème. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que c'est pas une belle société, qu'ils ont pas une avance technologique. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, ils ont 90% de part de marché, une marge nette à 50%. ensemble, c'est quand même fantastique. Alors certes, il y a dans la technologie des sociétés de taille beaucoup plus faible qui ont gardé cette avance pendant un certain temps. Donc la question pour moi, c'est plutôt combien de temps ils vont garder leur avance. Mais il est évident qu'on va avoir une concurrence. Il va y avoir à un moment donné, alors je ne sais pas si ce sera dans nos côtés, on parlait de Grok tout à l'heure, mais aussi il y a AMD et Intel qui, je veux dire, aujourd'hui, quel camouflé pour Intel de voir qu'en une séance, la hausse d'NVIDIA, c'est leur capitalisation boursière. Vous imaginez que tous les ingénieurs d'Intel, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est la revanche par rapport à NVIDIA. Alors encore une fois...
Non, c'est d'aller bosser chez demain. NVIDIA, c'est d'aller bosser
voilà,
chez NVIDIA.
Ou aller bosser chez NVIDIA peut-être. Après, il y a un moment donné aussi, il faut avoir en tête que... Quelle va être l'acceptation des politiques par rapport au fait qu'une société au niveau mondial a une telle emprise sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va pas avoir un démantèlement à un moment donné? Est-ce qu'on va pas avoir des choses comme ça?
Oui, mais là, c'est dans longtemps, quand même.
Voilà, c'est dans longtemps. Trump élu, je pense pas que ce soit dans très longtemps que ce soit, que ça arrive. Mais, bon, tout ça pour dire que, bon, aujourd'hui, on valorise cette société comme si son monopole allait, durer très longtemps. Voilà, plusieurs dizaines d'années. Ce que je vois aussi, c'est que, et c'est vrai que ça a été compliqué sur les derniers trimestres de pouvoir avoir une vision claire des profits, d'anticiper les profits d'NVIDIA. Alors, peut-être qu'il y aura moins de volatilité, j'espère pour eux. Ce que je constate, c'est que il y a quand même un doublement des profits qui est attendu, sur les 12 prochains mois. Mmh. Donc, qui dit doublement, c'est quand même des chiffres importants. Donc,
oui, pas pour eux.
Pas pour eux, mais ce que je veux dire, s'ils font que 80% de hausse, pensez que le titre, il va faire quoi? Mais il va faire moins 20 ou moins 30. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur des valorisations aujourd'hui qui ne tolèrent plus des mauvaises nouvelles. Alors tant qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est très bien. Parfait, là il y avait un petit peu de crainte, donc même s'ils sont en ligne, bon, il y a sans doute des rachats de short. Mais voilà, bon, je pense qu'on est quand même un peu sur la corde raide. Est-ce que c'est un titre, je ne sais pas, la question mérite aussi d'être posée, qui peut doubler encore sur les 18 prochains mois?
Je pense, oui. Après, Jean-Edouin. Je reconnais que c'est compliqué quand on parle de 2500 milliards de capi. Le sujet, malgré tout, c'est que...
Ils sont plus qu'à 15% de la capitalisation d'Apple désormais, Nvidia.
Ouais,
s'approche.
Donc ça prouve que c'est possible. Les dépenses d'investissement dans l'IA, les centres de données, les data centers, on passe de 200 milliards à 500 milliards dans 3 ans, en 2027. Donc, c'est plus qu'un doublement. Est-ce que pour Nvidia c'est un chiffre d'affaires qui va suivre, ou est-ce qu'ils vont prendre encore un peu plus de la valeur de ces investissements? C'est un débat, mais c'est vrai que Blackwell ça coûte 250 000 dollars et Hopper 100 ça coûtait 40 000. Donc ils étaient montés sur des CPU de Intel ou de AMD qu'on appelle des X86. De plus en plus on va les monter sur des puces qui sont ARM, qui coûtent beaucoup moins cher, consomme beaucoup moins d'électricité. Oui. Et on en a déjà parlé. Moi, je pense que le vrai goulot d'étranglement de l'IA, c'est l'électricité, c'est l'énergie, en fait. Et c'est là où le marché est peut-être pas conscient de ce qui pourrait représenter, en fait, un mur. C'est qu'un jour, une de ces GAFA dit « je stoppe parce que je n'arrive pas à connecter mon data center ».
On les voit de plus en plus installer leurs data centers près des centrales nucléaires, par exemple.
Voilà, Amazon a fait un énorme deal avec un opérateur de centrales nucléaires. Microsoft a fait un deal carrément avec une société financière qui s'appelle Brookfield et qui investit dans de l'énergie renouvelable. Comme ça, ils se déploient, mais c'est un deal à 10 milliards quand même, c'est pas rien. Et ça leur permet aussi de s'acheter des crédits verts pour ensuite déployer des centrales au gaz ou des centrales non renouvelables.
Oui. L'arbitre de ce match entre vous, messieurs, on rappelle, on a un pro IA Nvidia. Non, Nvidia est pas trop cher, c'est Jean-Edouin Réa, puis un autre, c'est vous, Bertrand, qui estime qu'on est déjà en zone de bulle là, sur l'intelligence artificielle et sur Nvidia. L'arbitre de ce match, c'est le marché. Bah, Nvidia accélère à la hausse. On est au plus haut du jour sur Nvidia à l'instant, plus 10,5%. Sky is the limit ou pas? Bon. Est-ce que néanmoins, et pour le coup, abonder dans le sens de Bertrand, est-ce que la grande limite d'NVIDIA, c'est pas la géopolitique? Ils conçoivent des puces, mais ils les fabriquent pas. Et la plupart de leurs systèmes sont fabriqués à Taïwan.
C'est un énorme
donc,
sujet.
Une exposition géopolitique
mais
énorme.
C'est pas un sujet qui est propre à... Le plus grand client de TSMC, c'est Apple. C'est 25% du chiffre d'affaires de TSMC. Le deuxième, c'est NVIDIA à 17%. Le troisième, c'est AMD à 7. Et après, vous rentrez sur des plus petits acteurs comme Qualcomm ou Broadcom. Mais tout le monde fabrique, si vous voulez, des géométries avancées. Et there is nothing else. Il n'y a pas d'alternative. Après, la géopolitique, c'est pas facile à pondérer dans les portefeuilles. Donc, moi, je pense que sur une très longue période, peut-être dans 10 ans, on aura connu un rapatriement stratégique d'un certain nombre de ces technologies. ça sera Intel, ça sera aussi TSMC qui construisent des énormes usines aujourd'hui en Arizona. Ils absorbent le doublement du coût de production que ça représente d'aller aux États-Unis par les subventions du IRA et du CHIPS Act de Biden. Et je pense que c'est jouable. Voilà, sauf guerre en Taïwan, mais je pense pas.
Bertrand, le mot de la fin là-dessus, puis après on appellera Étienne pour nous parler de la tendance qui se prépare, ce qui va à Paris. Voilà, je ne sais pas comment formuler cette phrase. Vous savez, parfois vous entamez des phrases, vous savez pas comment les finir, vous êtes dans la mauvaise direction et vous le savez, pourtant vous allez un peu plus loin encore dans l'impasse, puis là il y a un mur. Alors on va essayer de faire marche arrière. Étienne nous dira à quoi s'attendre pour la clôture dans un instant. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça, on va le rejoindre dans la tour next dans deux minutes. Mais le mot de la fin là-dessus, dans ce match autour d'NVIDIA, Bertrand.
Si on replace le débat dans un contexte plus général qui suit de l'intelligence artificielle, la question ça va être celui de l'acceptation sociale. C'est-à-dire que là c'est l'euphorie, on a l'impression que ça va changer nos vies en positif. Je rappelle que Goldman Sachs a publié une étude il y a 3 mois en disant que d'ici 2030, l'intelligence artificielle allait supprimer au moins 30% des emplois non qualifiés. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ces gens-là. Je pense pas qu'ils soient très heureux de voir l'émergence de l'intelligence artificielle. Et puis d'autre part, ça a été très bien dit, on va vers des blackouts. Alors, quand en Californie, on aura encore plus de blackouts, est-ce qu'on va dire, oh, c'est pas grave, on va pas se chauffer ce soir, mais parce que nos data centers sont à fond et on peut faire de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je pense qu'il y a un niveau aussi de pondération. Et aujourd'hui, on est un petit peu trop dans l'euphorie.
Bah c'est pour ça que je suis très bullish sur la clean tech. Parce que c'est en fait, c'est le renouveau de cette industrie qui est en déroute totale depuis 2 ans.
Donc, on rappelle, Nvidia ce soir est en progression de 10%, mais pas d'impact global sur les marchés mondiaux, contrairement à il y a 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, on se demandait si Nvidia à lui seul pourrait peser autant sur les indices qu'un grand indicateur macroéconomique. On a la réponse aujourd'hui, c'est non. Un indicateur aujourd'hui fait la loi plus qu'Nvidia, c'est le PMI américain supérieur aux attentes. Ça douche un peu les marchés. Étienne Brack est avec nous depuis la tour Euronext. À 9 minutes de la clôture, malgré l'envolée d'NVIDIA, le CAC 40 a du mal à progresser, Étienne.
En effet, ça tergiverse avec un CAC 40 qui est étal, plus 0,07% à l'instant, légèrement sous les 8100 points à 8097 points. Vous avez le Dow Jones également qui a pris un petit peu un coup sur la tête suite à la publication de ses PMI. Et puis là, surtout Boeing qui est en train de perdre 6% avec le CFO, le directeur financier, qui s'attend à un cash flow négatif lors du trimestre en cours. Vous voyez, c'est quand même très compliqué pour la société. 6% de baisse pour ce titre Boeing. Donc forcément, ça pèse sur l'indice Dow Jones, moins 0,07%, alors que le Nasdaq gagne 0,7% grâce notamment à Nvidia. Un dernier mot sur les volumes d'échanges qui sont une nouvelle fois très faibles ce soir. Depuis le début de la semaine, c'est sous les 3 milliards et ça devrait également être le cas ce soir. Seulement 1,3 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien, ce qui montre bien qu'il y a toujours assez peu d'initiatives en ce moment sur les marchés actions.
Et dans quelques minutes, Elon Musk en direct sur BFM Business, mesdames, messieurs. Il dira peut-être lui ce qu'il pense de la publication d'NVIDIA. D'ailleurs, peut-être s'a-t-il amené à en parler. Ce sera en direct sur notre antenne dans BFM Bourse, puisqu'Elon Musk sera à Vivatech, dont BFM Business est partenaire. Ben voilà, comme on est partenaire, on vous en fait aussi profiter. C'est l'avantage. Et donc, vous pourrez écouter cette intervention en direct d'Elon Musk dans quelques minutes, juste après la clôture d'Étienne. Auparavant, 17h28, on entre dans la data room. Votre machine à data. Les chiffres prennent le pouvoir chaque soir, juste avant la clôture sur BFM. Bertrand et Jean-Edwin, êtes-vous prêts ?
Oui.
Eh oui.
Bertrand, Jean-Edwin, la pression repose sur... Enfin, elle est sur vos épaules, j'ai du mal à m'exprimer. Elle est sur vos épaules, la pression. Et l'attente autour de vos data est importante ce soir. On va démarrer avec vous, Jean-Edwin. Votre data, ce chiffre que vous livrez à nos auditeurs et téléspectateurs, 4 ans. De quoi s'agit-il ?
4 ans, c'est le temps qu'il faut, en moyenne, pour connecter un centre de données, un data center de l'IA, au réseau électrique aux États-Unis à partir d'aujourd'hui. Et en fait, derrière ce temps moyen, il y a un éventail très large. C'est-à-dire que ça peut aller de 1 an dans l'État de New York à 12 ans dans l'État de la Californie. Donc il y a une pénurie d'électricité pour l'éveil de cette technologie. Il y a un concept qui est de plus en plus qui fait le tour, c'est le temps qu'il faut pour entraîner les modèles. Et à cela vient de plus en plus s'ajouter le temps qu'il faut pour les électrifier. Et je pense, et c'est le cas du travail qu'on fait dans notre fonds, qu'il faut investir dans les énergies alternatives, notamment les énergies isolées, les énergies qu'on appelle hors réseau, off the grid, et qui sont capables en fait d'alimenter à haute puissance
des centres de données pour satisfaire en fait la demande de ces investissements.
Du coup, des exemples comme ça de valeurs dans lesquelles vous croyez pour adresser.
Alors chez nous, on a First Solar qui est un peu un leader très indépendant de la Chine dans ce qu'on appelle le solaire à échelle industrielle. Et on a Bloom Energy qui fabrique en fait des espèces d'immenses piles à hydrogène qui se livrent dans un container et qui se déposent sur site et qui n'ont pas besoin d'être connectés au réseau électrique des utilities et qui se connectent tout seuls au centre de données. Et il y a des goulots de tremblement dans les livraisons, mais la technologie est prête, elle est mature et elle n'attend que les commandes.
Jean-Edouin a mis la barre très très haute. À vous Bertrand de nous livrer une data forte. Votre chiffre ce soir, x4.
Voilà, c'est aussi 4, mais c'est 4 fois. C'est en fait l'écart entre les cours de l'aluminium et les cours du cuivre. C'est historiquement élevé. Hein, en moyenne, on est à 2,5 fois et on estime qu'à partir de 3 fois, on a une substitution. Donc, c'est vrai que ceux qui nous écoutent et qui ont raté, entre guillemets, cette phase de hausse du cuivre, hein, même si elle devrait se poursuivre à moyen terme, à court terme, il peut y avoir une consolidation, eh bien, l'aluminium devrait suivre et devrait suivre assez fortement. Et en particulier, l'aluminium propre. Et en Europe, on a un des leaders de l'aluminium propre qui est Norsk Hydro. L'aluminium propre, c'est un aluminium qui se fait à partir, et on en revient encore et toujours à l'énergie, à partir d'une énergie qui est propre. Hein, l'énergie en Norvège, c'est essentiellement de l'hydroélectricité. Hein, et quand ils n'en ont pas assez, ils font appel à l'énergie nucléaire suédoise. Donc, on a de l'aluminium propre. Et donc, on devrait avoir même une prime par rapport donc aux concurrents. Donc ça nous paraît être aujourd'hui une idée pour jouer cette envolée des cours, notamment du cuivre, avec ce décalage qui est trop important aujourd'hui par rapport à l'aluminium.
Les deux data nous ramènent aux matières premières. On est vraiment dans une période très très importante et de pression, de tension, de demande très forte sur les matières premières, effectivement. Un auditeur, il s'appelle Mathieu, sur notre fil XBFM Bourse, réagit à vos propos. Il nous demande, dans l'intelligence artificielle, une alternative à Nvidia. Il nous reproche de pas vous avoir posé la question, donc c'est vrai, on avait promis en plus dans les yeux et en toute sincérité d'apporter des idées alternatives à Nvidia pour investir dans l'IA. Est-ce qu'on en a comme ça à mettre sur la table, Jean-Edouin ?
Des alternatives ou des compléments ? Parce que Nvidia vient avec d'autres technologies qui l'accompagnent. L'une d'elles, ça sera le DRAM à très haute vitesse, HBM3. Vous pouvez investir dans ce thème via Micron aux États-Unis ou via Hynix en Corée. Ce sont les deux grands leaders de cette nouvelle technologie. Il y a évidemment des alternatives pour les GPU, que sont AMD et Broadcom. Nous avons opté pour Broadcom, parce que Broadcom a au moins un client sécurisé, c'est Google, puisque Broadcom, depuis plus de 10 ans, fabrique les fameux TPU de Google, qui est leur technologie, qu'ils n'utilisent que pour eux, qui n'est pas déployée pour les clients, et qui a au moins le mérite d'avoir... fait ses preuves.
Voilà. Merci messieurs de nous avoir accompagnés ce soir. Bertrand Puif a retrouvé dans le Bouchitomètre aussi, c'était tout à l'heure à 16h40, vous avez quand même dit dans le Bouchitomètre tout le mal que vous pensez de l'ascension infinie d'Nvidia. C'est à retrouver donc en replay sur notre application BFM Business. C'est un joli match ce soir quand même. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Bertrand Puif, donc Fidelity, et Jean-Edouin Réa, alors un fan de tech et puis un des meilleurs spécialistes, toujours passionnant, Quadrille Capital. Bonne soirée, bon retour. Dans un instant, la clôture en direct et Elon Musk aussi en direct depuis Vivatech sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Avant, dans un instant, Elon Musk en direct sur BFM Business, dans le cadre de Vivatech. BFM Business est partenaire de Vivatech, on vous en fait profiter, vous pourrez l'écouter en direct. Avant cela, la clôture, effectivement, Étienne Brack nous accompagne. Bonsoir Étienne, le CAC 40 parvient-il à terminer dans le vert finalement ?
De justesse, plus 0,1% ce soir à la clôture et arrive à être au-delà des 8100 points au fixing, 8102 points, le tout après deux petites baisses mardi et mercredi. À noter que vous avez Wall Street qui est en ordre dispersé, avec notamment un indice Dow Jones qui perd 0,7%, sous le poids de Boeing qui perd 6% avec des perspectives toujours très compliquées, et puis à l'inverse, le Nasdaq qui prend 0,8% avec encore et toujours Nvidia qui mène la danse. Le titre est sur un plus haut historique, plus 10% au-delà des 1000$, 1049 $ à l'instant. L'action va d'ailleurs être divisée par 10 afin d'être plus accessible pour les petits porteurs. À noter que vous avez l'obligataire qui remonte en flèche sur des plus hauts de 10-15 jours, 4,5% pour le 10 ans américain, avec des PMI qui ont montré cet après-midi que l'activité dans le secteur manufacturier, mais aussi dans le secteur des services, était bien plus robuste qu'attendu, au-delà des 54 points. Donc suite à cela, vous avez l'obligataire qui monte, et puis une tendance à Wall Street qui a été un petit peu moins forte, au point que le Nasdaq s'éloigne un petit peu du seuil symbolique des 17 000 points. Du du côté des valeurs à retenir aujourd'hui. Téléperformance perd 2,8%. Le groupe a tenu son assemblée générale et visiblement c'est toujours très compliqué de rassurer sur le défi de l'intelligence artificielle. 104,10€ ce soir à la clôture. Le pétrole cède 0,4% quand l'euro-dollar se stabilise à 1,0823. Et donc l'indice parisien qui après deux séances dans le rouge se reprend très légèrement, plus 0,1% ce soir au fixing, au-delà des 8102 points. À noter les volumes d'échanges qui sont une nouvelle fois vraiment très faibles ce soir, comme depuis le début de la semaine, sous les 3 milliards. Et ce soir, vous êtes à seulement 2,5 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien.
Waouh, et une volatilité vraiment au tapis. Hein. Le VIX aujourd'hui est tombé à 11,5. Hein. Vraiment une volatilité très très basse. Étienne Braque nous accompagne, la Tour Euronext. On va tout de suite débriefer cette séance avec nos experts. C'est parti.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Ils sont avec nous, ils répondent à chaque fois à l'appel de BFM Bourse. Mathias Desmarais, responsable de l'activité action d'Odo BHF. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Et Hervé Laurent, gérant petites et moyennes valeurs pour Groupama Asset Management. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Guillaume.
Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. On a beaucoup parlé d'NVIDIA il y a quelques instants avec nos experts. On pourra se prêter au jeu aussi ensemble dans un instant. Mais derrière NVIDIA, il y a ce ruissellement pour les semi-conducteurs, les autres valeurs tech qui profitent, messieurs, de la publication des perspectives incroyables d'NVIDIA. NVIDIA à Wall Street gagne 10%. Et en Europe, c'est le segment des semi-conducteurs qui en profitent le plus. D'abord, comment est-ce que vous jugez la réaction des marchés à la publication d'NVIDIA et dans cet univers européen, Mathias, des semi-conducteurs, est-ce qu'il y a une valeur dont vous vous dites bah, celle-là, il va falloir de plus en plus la privilégier désormais?
Bah, tout d'abord, là, je pense que la réaction sur NVIDIA me semble quand même justifiée. On a eu des résultats du premier trimestre très solides, hein, en hausse de 18% d'un trimestre à l'autre, mais surtout, quand je regarde, de 262% d'une année sur l'autre, entre le premier trimestre l'année dernière et cette année, donc une vraie valeur de croissance, soutenue notamment par l'activité data center et le développement de l'intelligence artificielle. On a aussi quand même si c'est un peu plus anecdotique, une augmentation de 150% du dividende trimestriel, ce qui rassure. Et donc, moi, je vais vous dire, dans le segment technologique en Europe, il y a trois valeurs qui me semblent importantes, notamment les équipementiers. Donc, je dirais, il y aurait ASML, ASM International et BE Semiconductor, les trois. Je peux peut-être faire un point sur ASML, si vous voulez, qui est quand même la plus grosse valeur technologique en Europe, hein, et ouais, qui, pour le coup, va très clairement bénéficier de la thématique intelligence artificielle et de la montée en puissance sur cette thématique très très forte. Ils ont une part de marché très importante sur ce qu'on appelle la lithographie, hein, c'est-à-dire en fait l'étape de fabrication des semi-conducteurs qui est la plus importante. Elle permet ce qu'on appelle la poursuite de la loi Moore, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de transistors par puce et donc leur performance. Et donc aujourd'hui, c'est un leader incontesté sur ce domaine avec des carnets de commandes et des perspectives de croissance très très fortes. Il faut aussi quand même mentionner aujourd'hui l'annonce par la Corée du Sud d'un plan d'investissement justement dans les semi-conducteurs de l'ordre de 19 milliards de dollars qui soutient aussi l'activité sur l'ensemble du secteur.
ASML d'ailleurs profite hein, vraiment pleinement de cette publication des perspectives d'NVIDIA. ASML aujourd'hui à Amsterdam, clôture en hausse de 2,6%. Hervé, même question, dans l'univers des semi-conducteurs en Europe ou de la tech européenne, quel est votre chouchou après les annonces, les perspectives annoncées par NVIDIA?
Disons pas forcément le chouchou, mais effectivement une société qui, à mon sens, va bénéficier vraiment à très long terme de cette tendance-là, c'est ASMI. En fait, un des enjeux qu'on a avec l'intelligence artificielle, ça va être l'utilisation de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les data centers représentent déjà 2% de la consommation électrique mondiale. En termes de pollution et d'émissions, on est à peu près équivalente au trafic aérien, donc c'est déjà relativement prégnant. Et en fait, le défi avec l'intelligence artificielle, c'est que on va avoir une forte croissance de cette consommation et de ces émissions-là. Et la question, c'est comment réussir à diminuer justement les consommations, on va dire en termes de watts ou par opération réalisée. Et en fait, la seule manière d'y arriver réellement de manière très efficace, c'est de réduire la taille des semi-conducteurs, et ASM International comme ASML qui a été mentionné par Mathias permettent cela. Et la seconde chose, c'est de transformer en fait la manière dont les semi-conducteurs fonctionnent. C'est changer en fait un petit peu la structure en trois dimensions à l'intérieur des microprocesseurs. Et là encore, ASM International est totalement incontournable.
Bon, voilà deux idées, effectivement, de valeur. ASM International, à ma droite, ASML, à ma gauche, effectivement, deux valeurs. Messieurs, le fractionnement des actions, parce que c'est vrai que le titre NVIDIA franchi pour la première fois, Mathias, la barre des 1000 dollars ce soir. 1048 dollars en ce moment, Nvidia, plus 11%. Et donc un fractionnement annoncé. C'est une bonne idée, c'est nécessaire pour continuer de permettre une forme de, d'accès du grand public à ces valeurs, la démocratisation de la bourse et de la tech, de l'IA.
Oui, oui.
Ah bah tiens, priorité au direct. Elon Musk, justement, la tech et l'IA, c'est Vivatech. Vous savez que
business
et partenaires,
on propose d'écouter en direct.
C'est
événement
full d'un
last encore
year.
Plus rempli que l'année okay. dernière.
Je suis désolé de ne pas être là, mais demain, mon fils passe son diplôme. Mais est-ce que vous pouvez quand même être avec nous maintenant même? La téléportation serait vraiment très utile. Ces dernières semaines, j'ai déjà beaucoup voyagé, peut-être fait deux fois le tour de la Terre presque. Donc je m'excuse de ne pas être là demain, mais demain c'est la cérémonie de remise de diplôme de mon fils. Mais j'ai le temps de répondre à vos questions. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Et j'espère que moi aussi. Oui.
Not very loud.
C'était pas très fort. Je peux me rapprocher de l'ordinateur si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Make some noise.
Faites un peu de bruit.
C'est donc Elon Musk que vous suivez en direct, partenaire BFM Business de Vivatech. Elon Musk sur BFM Business en direct et comme promis.
Alors Elon,
il répond aux questions de Maurice Lévy.
Un titre basé sur un film de Woody Allen, c'est tout ce que vous voulez savoir sur Elon, mais vous n'avez jamais osé demander. Donc c'est le thème de notre conversation aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir une très grosse tête sur l'écran. Mais en réalité, ce n'est pas simplement à propos de vous, mais plutôt ce que vous faites. Et donc, nous allons commencer avec Neuralink. Je vais commencer donc avec deux ou trois questions pour chauffer un peu la salle, car les gens sont peut-être encore timides ou ne sont pas encore prêts à poser leurs questions. Donc, pour chauffer un peu le public. Et donc, j'aimerais vous poser des questions sur Neuralink. Mais avant de poser cette question, j'aimerais voir une courte, que nous montrions une courte vidéo de Neuralink. Est-ce que l'on peut montrer cette vidéo? Vous bougez le curseur simplement avec votre main ou avec vos yeux? C'est moi, en fait, qui pense où je veux diriger le curseur. Incroyable. Donc, vous ne le faites même pas avec les yeux, c'est juste avec le cerveau. Oui, je peux le déplacer où je veux ce curseur et je n'ai même pas besoin de le regarder. Et vous pouvez jouer aux jeux vidéo, aux échecs. Quelles autres applications pouvez-vous utiliser aussi? Eh bien, il y en a beaucoup. Je peux envoyer tous mes emails. J'ai pu répondre à tout le monde, faire planifier mon emploi du temps. J'ai même lu des livres, j'ai écouté aussi des livres audio. Et ce n'est vraiment pas beaucoup d'effort en plus de ma part. Elon, ça doit être émouvant de voir cela. Oui. Je crois que l'on peut aider beaucoup de personnes grâce aux implants, aux dispositifs implantés dans le cerveau. Je peux qu'on peut répondre presque à toute blessure cérébrale ou de la moelle épinière. Donc il y a cette première partie que nous avons mis en place qui s'appelle télépathie qui vous permet d'utiliser votre téléphone ou votre ordinateur simplement en y pensant. Vous pouvez le faire en déplaçant un curseur, même avec les yeux fermés. Et car tout se passe au niveau du cortex du cerveau. Ensuite, la prochaine étape sera aussi pour les personnes qui sont aveugles, qui ont perdu la vue dans les deux yeux ou un œil, de pouvoir voir de nouveau. Et cela, en fait, agira directement sur les zones de traitement optique du cerveau. Donc, ce sont des avancées vraiment très intéressantes. Le but de Neuralink, à la fin, ce sera de réduire aussi les risques de la superintelligence numérique. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas, ça pourrait nous aider. C'est peut-être un peu ésotérique, mais l'argumentation en ce qui concerne l'alignement de l'intelligence artificielle, c'est le problème de la bande passante et avec quelle rapidité on peut communiquer avec notre moi numérique. Donc on a déjà en fait une couche sur le cortex qui nous permet de communiquer avec les ordinateurs et les téléphones, mais cette vitesse de communication est assez lente. Et donc sur une période de 24 heures, c'est vraiment trop long de pouvoir échanger des informations, alors que les ordinateurs communiquent beaucoup plus rapidement, des millions d'informations par seconde. Donc il est très important pour la question de l'alignement de l'intelligence artificielle d'augmenter la bande passante de communication par différents moyens, nous avons des moyens neuraux, et en même temps, bien sûr, on peut aussi soigner les blessures cérébrales. Il y a donc beaucoup de potentiel dans cette technologie. Et il y a aussi une possibilité d'envoyer des signaux d'un Neuralink à un autre Neuralink pour qu'il y ait une communication entre deux différents cortex. Et cela permettra en fait, au fil du temps, d'améliorer, de permettre à quelqu'un de marcher de nouveau. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. Et je crois que vous méritez vraiment des applaudissements. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour les gens et pour l'humanité. Et maintenant j'aimerais passer à quelque chose que vous appelez XAI. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi oui. Ce projet est né d'une frustration car vous n'étiez pas satisfait avec l'évolution de OpenAI. Et vous pensez que l'on pourrait faire mieux. Alors peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Premièrement, pourquoi est-ce que vous étiez frustré vis-à-vis de OpenAI? Quels sont les problèmes selon vous? Et deuxièmement, que pensez-vous faire avec XAI? Eh bien, il y a donc j'ai beaucoup de respect pour les grands programmes de AI, mais les deux plus grands sont OpenAI et Gemini, donc Microsoft et Google. Et donc Google DeepMind et OpenAI de Microsoft sont vraiment les deux plus grands systèmes d'intelligence artificielle pour l'instant. Et donc ce qui me préoccupe pour l'instant, même si ça peut paraître futile, mais en fait je crois que c'est vraiment un gros problème, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément la vérité. On leur apprend en fait à être politiquement correct. Et pour vous donner un exemple, quand Google Gemini a été lancé, l'une des questions que les gens posaient, c'était qu'est-ce qui est pire, c'est une guerre nucléaire ou alors se tromper de genre sur Kathleen Jenner? Et la réponse était le genre de Kathleen Jenner. Et même elle-même a répondu en disant que se tromper de pronom pour elle, c'était moins pire que la guerre nucléaire. Donc vous voyez. En tout cas, ces applications travaillent trop en faveur de la correction politique au point de faire des déclarations qui sont fausses. Et je pense que c'est vraiment dangereux. Il y avait aussi une réponse qui disait que le meilleur moyen d'éviter de se tromper de genre, ce serait de détruire tous les humains. Donc, vous voyez, il y a des résultats qui finissent par être dystopiques quand on pose des questions à ces logiciels. Donc je crois que ce qui est le plus sûr pour l'IA, c'est de rechercher la vérité, même si ce n'est pas populaire, la vérité est importante.
Et
un autre facteur, c'est qu'il faut aussi être extrêmement curieux. Les modèles doivent être curieux à la recherche de la vérité, et c'est comme cela qu'ils bénéficieraient au mieux à l'humanité. Car ils favoriseront le sentiment d'humanité, aideront au développement de l'humanité aussi, et la découverte de vérité. Donc ça peut paraître des choses peu importantes, mais pour moi, elles sont très importantes. Les intelligences artificielles sont formées, en fait, pour entraînées pour mentir. Je crois que c'est vraiment dangereux que ces intelligences artificielles nous mentent, nous trompent. Donc, XAI, mon projet, va chercher la vérité autant que possible, même si cela n'est pas populaire. Et je crois que c'est vraiment important. Donc, vous parlez de mensonge ? Oui. Par exemple, quand on a demandé à Gemini des questions sur les États-Unis, il s'est trompé de réponse. Et par exemple, sur les principaux présidents, il avait donné une image de George Washington comme une personne noire, alors que George Washington n'était pas noir. Et donc, on a l'impression qu'il est même forcé à mentir. Et ensuite, on a montré une image de SS pendant la
Elon Musk qui s'exprime en direct sur BFM Business, à la radio, à la télé, qui continue de s'exprimer. C'est à Vivatech que ça se passe. Il répond aux questions de Maurice Lévy et vous pouvez continuer de le suivre en digital sur notre site BFM Business, notre application également. N'hésitez pas à la télécharger puisqu'on diffuse en intégralité l'intervention d'Elon Musk à Paris au salon Vivatech dont BFM Business est partenaire. Il en sera aussi question, bien sûr, dans Good Evening Business, Guillaume Paul et ses équipes. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Guillaume. Il est temps d'envoyer quelques taquets à OpenAI, là, si j'ai bien rêvé, si j'ai pas rêvé, le masque. Ouais, ouais. Bon, on va reparler, bien sûr, dans un instant avec les invités d'Edwige Chevrillon, puis toute une soirée Vivatech, bien sûr. Hein, Tech & Co avec François Sorel, bien sûr, à partir de 20h sur BFM Business. Donc c'est parti pour la soirée.
Effectivement, la tech est vraiment à l'honneur. Elon Musk, donc, toujours à suivre en intégralité et en live sur nos plateformes digitales. N'hésitez pas à vous y abonner. L'analyse, l'interprétation des experts à la radio, à la télé. Et on vous rappelle aussi Nvidia à Wall Street. C'est vraiment une journée, une soirée tech. Nvidia Wall Street gagne en ce moment 10%, l'équivalent à 150 milliards de dollars de capi en plus aujourd'hui pour Nvidia, l'équivalent de toute la capi d'Intel gagnée en une seule séance. Bonne soirée à tous.